rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui la 17e d'I Love Mes Cheveux. Une émission diffusée deux ou trois lundis par mois, de 9h30 à 11h, en direct et évidemment en podcast. Alors aujourd'hui, c'est la 5e émission du mois de juin, donc on n'a pas vraiment fait deux ou trois fois par mois, mais bon, c'est pas une émission d'arithmétique, donc on va s'en sortir. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et à mes côtés, mes invités d'aujourd'hui, par ordre alphabétique, Christine Clément, Claire Durand et Florence Raymond. Mesdames, bonjour. Ah oui, j'ai pas mis vos micros, donc vous allez redire bonjour.
Bonjour.
Ouais, non, mais ça fait 17 émissions et je suis toujours aussi mauvais. Et nous avons aussi parmi nous une stagiaire, Émilie Loiseau, qui fait actuellement son stage avec Claire Durand. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Et également, mais sans micro parce qu'on n'a pas assez de micros, une stagiaire de seconde, Camille, qui est aussi stagiaire ici à Radio Campus. Je close cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié ILMC 2025, qu'on peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, et qu'on peut même commenter en direct sous la dernière publication, celle avec le nom des invités. Posez vos questions et on essaiera de garder un œil sur l'Insta tout en enregistrant l'émission. Alors je dis un petit mot de plus par rapport au générique habituel, qui est qu'aujourd'hui on est en pleine canicule et que dans les studios de Radio Campus il fait vraiment chaud, donc il y aura des pauses musicales bienvenues. Il fait toujours chaud un peu dans le studio, mais là évidemment c'est pire que jamais, donc c'est la canicule. Et je rappelle que ces épisodes de canicule ne sont pas normaux, ça n'est pas l'été et c'est de pire en pire chaque année. Voilà. Et vous connaissez l'émission, chers auditeurs, chères auditrices du 99.5. On commence par la rubrique Le Mot du Jour, une rubrique que je tiens. Mais je rappelle que s'il y a des volontaires, on peut très bien venir tenir cette rubrique à ma place. Alors aujourd'hui, j'ai choisi, et on va entrer dès cette rubrique Le Mot du Jour dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui on va parler du partenariat Neolaya. J'ai choisi un mot napolitain que connaissent certainement nos collègues de l'université de... J'ai encore oublié le nom de l'université.
Salerne,
merci. Voilà, il y a Claire Durand qui... Je sais que j'ai... Je me mélange dans les manettes parce que j'ai beaucoup d'invités, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens pour me rattraper aussi. Donc ça, c'est super. Donc un mot napolitain que connaissent forcément nos collègues de l'université de Salerne, c'est la seule chose que je n'avais pas écrite dans mes notes, variante de l'italien que je ne parle pas davantage que l'italien standard. Si tant est que l'italien standard existe. Ce mot, c'est Cazzima, prononciation non garantie, qui désigne, si j'en crois mes sources extrêmement fiables, le Wiktionnaire, mais aussi deux billets de blog et la chaîne YouTube, je vous assure que je n'invente rien, Learn Italian with Il Maestro, le fait de recourir à des stratagèmes en permanence. Cazzima, c'est le fait de recourir à des stratagèmes afin de se débrouiller, le système D, la débrouillardise, mais apparemment, c'est aussi le fait de faire des bêtises juste pour le plaisir de nuire. Ou c'est aussi un comportement agressif qui, en fait, est plutôt positivement valorisé. Nous, on parlerait peut-être de comportement agressif, et certains napolitains, visiblement, décrivent la Cazzima comme un comportement agressif, mais c'est souvent vu comme simplement de l'auto-affirmation. Je ne suis pas sûr que mon choix de ce mot va beaucoup nous aider à lever les clichés qui pèsent sur les napolitains. Il va donc falloir organiser une mission chez nos partenaires de Salerno, près de Naples. Ah si, je l'avais écrit dans mes notes, mais c'est juste que c'est écrit trop petit et que je n'ai pas mes lunettes. Je vous propose, afin d'illustrer ceci, d'écouter le refrain d'une chanson récente de Martina Dieffe, là encore prononciation non garantie, intitulée Cazzima, parue il y a 3 ans. Et attention, hein, guettez bien, vous allez entendre le mot dans le refrain normalement.
Non mi dire no.
4. Bello sul tuo tempo, il cielo l'aria spento.
Voilà un petit extrait, je ne l'ai pas passé en entier, mais il y aura le lien sur la page de l'émission, d'une chanson de Martina Dieffe, Katsima, pour illustrer donc notre mot du jour. Alors je me tourne enfin quand même, parce que ça commence à bien faire, hein, que ça soit toujours moi qui parle, vers mes invités du jour, à qui je vais demander de se présenter. Je pense que ça sera aussi bien que ce soit elle qui le fasse que moi, et peut-être tiens, dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre face à moi. Florence Raymond, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais à l'université? Parce qu'aujourd'hui, on a des collègues de l'université qui travaillent à l'université. Ce n'est pas le cas toutes les semaines.
Bonjour. Eh bien, moi, je travaille à la direction de la faculté de lettres et langues. Et ma mission principale, c'est de gérer les heures d'enseignement.
Voilà. Et je t'ai invité aujourd'hui parce que tu es partie sur un certain nombre de missions, dont des missions Néolaïa.
Je suis partie deux fois en mission Erasmus, et plus précisément Néolaïa cette année, et une fois en mission hors Europe.
D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. À ta droite, Claire Durand. Donc Claire, bonjour de nouveau.
Et bonjour.
Toi, tu es chef de projet Néolaïa.
Je ne suis pas chef de projet, c'est voilà. Céline Baudin qui est chef
de
projet.
Ah oui, c'est vrai, oui, non, mais c'est
non,
bon.
Non, je suis chargée de projet.
Je fais partie
de l'équipe de chargée de projet. Et moi, plus précisément, sur le projet Néolaïa, je vais me concentrer sur ce qui touche à l'enseignement, les projets pédagogiques, et également sur la mobilité, qu'elle soit étudiante, de personnel, etc.
D'accord, très bien. Et tu as effectivement bien fait de me rectifier, parce que j'ai jamais tous les organigrammes en tête, donc je suis pas très sensible aux hiérarchies et aux titres, mais c'est important de le dire. Tu es donc chargé de projet et tu as bien défini ton périmètre. Et si on continue, à ta droite, Christine.
Bonjour.
Christine Clément, donc faculté lettres et langues comme Florence.
Voilà, donc je suis gestionnaire pédagogique dans la filière lettres de l'UFR Lettres et Langues, et je travaille donc essentiellement avec les enseignants et les étudiants sur toute la partie pédagogie de leur cursus de licence et de master.
D'accord.
Voilà, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi le fait que j'ai fait plusieurs mobilités avec l'université, dans le cas de Néolaïa ou Erasmus, et hors Erasmus également.
Okay. Et je vais quand même, puisqu'elle a un micro, de poser la question à notre invité presque surprise du jour, à notre stagiaire, enfin la stagiaire plutôt de l'antenne Néolaïa à Tours, Émilie. Émilie, tu es stagiaire de première, tu es dans quel lycée?
Tout à fait. Du coup, personnellement, je suis au lycée Balzac et j'ai demandé à faire un stage pour pouvoir découvrir le projet Néolaïa.
Ok, et tu en as entendu parler comment, si ça ne...
Par ma mère, qui travaille également à l'université.
D'accord, ok, très bien. Parce que voilà, ça me rassure un petit peu, parce que déjà, et c'est aussi un des intérêts, enfin c'est aussi un des objectifs moi de cette émission, c'était bon d'avoir un certain nombre de sujets qui vont être traités aujourd'hui, mais c'était aussi d'avoir un nouvel espace de parole pour faire connaître le partenariat Néolaïa, qui est encore assez mal connu ou qui est un partenariat un peu complexe. Donc c'est sans doute normal que tout le monde sache pas exactement ce que c'est. Mais c'est vrai que quelqu'un d'extérieur en ait entendu parler, ça me paraissait assez improbable.
Non, mais on rayonne.
Non, mais ça rayonne. L'émission d'aujourd'hui doit contribuer au rayonnement,
merci.
Normalement.
Donc,
merci beaucoup, Émilie. Et donc, bienvenue parmi nous. Bon, comme je te l'ai dit hors antenne, si à un moment donné, tu as aussi des questions à poser, pas seulement des interventions, mais quelque chose qui a été dit et que toi, tu veux poser une question, voilà, surtout fais-le. Il n'y a pas que moi qui pose des questions dans cette émission. Et donc, on va en venir alors à la question liminaire, celle que je pose un peu à tout le monde, histoire de faire un peu connaissance. Alors, je dis toujours, combien de langues parlez-vous? Il n'y a pas une question de performance derrière, hein, c'est pas le nombre, c'est aussi pour dire, en fait, dans des itinéraires de vie, qu'est-ce qui fait qu'on parle ou qu'on parle plus très bien, ou qu'on comprend mais qu'on ne parle pas telle ou telle langue apprise à l'école? Et puis, il y a des langues qu'on peut parler, parfois très bien, sans jamais les avoir apprises à l'école. Donc voilà, donc c'est juste un peu pour faire le point, puisque comme on va parler d'émissions à l'étranger et du fait de se débrouiller dans un pays étranger, c'est un peu aussi en rapport. Florence?
Eh bien, moi, je parle l'anglais, que j'ai appris à l'école et perfectionné tout au long de ma vie. J'ai des petites notions d'arabe et d'italien.
D'accord, très bien. Claire?
Alors, pour ma part, je parle anglais également. Je l'ai étudié à l'université. Je parle également espagnol, puisque ma mère est espagnole. Et je comprends le gallego, qui se parle en Galice, et je comprends l'occitan.
D'accord, ok. Donc, comme moi, tu comprends l'occitan et tu ne le parles pas?
Non, voilà, je l'écoute à la radio.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est mieux que moi, parce que moi, en plus, je l'entretiens pas du tout. Donc, quand je dis que je le comprends, c'est à moitié faux, en plus. Mais je le comprends, mais il faut répéter ou que ça aille pas trop vite.
Il faut s'immerger.
Ouais, il faut s'immerger. Mais moi c'est pour des origines familiales et géographiques. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Voilà.
C'est toulousaine.
Ok, voilà. Bah, moi je suis landais, donc voilà. Donc c'est pas d'ailleurs le même occitan, parce que moi c'est le gascon et toi c'est plus proche du languedocien, je crois. Si on... Donc on parle pas exactement du même occitan. Peu importe, c'est pas très grave. Il y a pas d'université occitane dans le partenariat Neolaya, donc c'est pas très grave. Christine.
Alors moi je parle anglais, je l'ai également étudié à l'université, même si c'était il y a très longtemps et que voilà, mon niveau a considérablement baissé depuis, mais néanmoins je m'en sors dans la mobilité. Mm-hmm. Je parle également espagnol puisque je suis d'origine espagnole et je comprends le catalan puisque je suis aussi d'origine catalane, je suis moi-même catalane.
D'accord.
Et sinon, je parle l'italien que j'ai appris en auto-formation depuis 2020. Voilà, c'était D'accord. une expérience Covid, on va dire.
Mm-hmm.
Et je n'ai par contre jamais cessé d'apprendre l'italien et que je pratique encore aujourd'hui, et qui me permettrait, je l'espère, puisque c'était le but, de faire une mobilité à Salerne de façon à être, je pense, pouvoir être assez à l'aise dans une conversation courante maintenant.
Donc ça fait 5 ans que tu es en auto-formation. Si c'est pas indiscret, tu t'auto-formes comment? Parce que
alors,
ça fait partie des questions que tout le monde se demande.
Pendant le Covid, j'ai commencé avec l'application la plus connue, Duolingo, qui m'a permis en tout cas d'aborder cette langue de façon très décomplexée et avec vraiment un apprentissage auquel on n'était pas habitué, puisque c'était un apprentissage qui sort complètement du cadre formatif scolaire. Et ensuite, à l'université, mon bureau, j'ai la chance d'avoir un bureau qui jouxte le bureau du département d'italien et une enseignante pendant quasiment une année complète. Florence Raymond et moi-même, nous avons eu la chance de déjeuner avec elle tous les jeudis où elle nous donnait...
une heure de formation.
Voilà, une heure. C'était un déjeuner formation en italien et qui nous a permis même d'acquérir... une certaine, même je dirais, d'être plutôt à l'aise, une certaine décomplexion en tout cas à l'oral. Donc je continue maintenant, je continue toute seule.
Tout en souhaitant que cette collègue ne se voit pas prise d'assaut par des demandes de déjeuner linguistique gratuit.
Non, c'était en toute confidentialité.
Ah non, d'accord, okay, j'allais dire, on peut peut-être citer son nom, donc non, on ne cite pas du tout son nom.
Si, Ida Giordano.
Ok, très bien. Bon, voilà. Donc quand même, on va saluer, on salue Ida, bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Ok, super, ben voilà, donc... C'est une question qui permet. Alors, je pose la question à Émilie aussi, parce que vous, peut-être qu'il y a des langues. Je crois que je t'ai tutoyé, je ne sais plus. Moi. Donc, combien de langues? Enfin, quelle langue apprends-tu?
L'anglais et l'espagnol au lycée.
D'accord, très bien. Et on a vu aussi parfois qu'il y a des itinéraires familiaux ou des itinéraires personnels qui font aussi qu'on parle certaines langues. Et c'est vrai que, par exemple, Christine, on se côtoie, on travaille rarement ensemble, en fait, mais on se connaît depuis pas mal de temps. Et moi, je ne savais pas du tout, par exemple, tu vois, que tu avais des origines catalanes et que tu étais catalane.
Espagnol et catalane.
Les deux.
Par mon père et par ma mère.
Et que donc, tu parles le castillan et le catalan.
Oui, le catalan, que je comprends, c'est de la D'accord. transmission familiale, ouais. en fait.
D'accord, hein, okay.
Voilà.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi c'est ce que je disais au début, avant de reposer la question rituelle, c'est que... parler une langue, ça ne veut pas dire... Il y a plein de degrés. C'est-à-dire par exemple, moi, si je lis une phrase en catalan, je vais peut-être la comprendre si elle est simple, parce qu'il y a le latin, il y a l'occitan, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est tout, quoi, ça n'ira pas plus loin. Et donc après, toute personne qui parle ou comprend le catalan mieux que moi déjà se situe dans cette sphère-là, dans laquelle je ne suis pas. Bon, quelqu'un qui, évidemment, est bilingue, est encore dans une autre sphère.
Et de fait, si je puis me permettre, c'est ce qui m'a permis de me sentir plutôt à l'aise dans l'italien, puisqu'on retrouve vraiment beaucoup de similitudes, en fait, entre le catalan et l'italien, plus qu'entre l'espagnol et l'italien.
D'accord, ok. Ouais. Ouais. Et je pense que pour les personnes qui... Je me sens moins seul du fait que Claire est là, mais pour les personnes qui connaissent l'occitan, c'est vrai que quand on voit un petit peu, quand on lit du catalan, quand on voit les gens en catalan, c'est très très proche de l'occitan. Et je pense peut-être d'ailleurs plus encore du languedocien que du gascon, pour des raisons géographiques assez évidentes. C'est vrai que quand on voit le catalan, il est très très proche des languedoc, en fait. Hein. Ok, super, très bien. Alors je pense qu'on a... Enfin, moi j'ai besoin de boire un coup. Donc on va faire une petite pause musicale. Alors je signale juste que la playlist nous est proposée par, en fait, alors j'ai oublié les noms, mais Claire va suppléer ma mémoire ou le fait que j'ai pas pris de notes. Il y a une playlist Neolaya qui a été concoctée par un collectif d'étudiants des différentes universités et qui fait environ 4 heures. Donc on a prélevé, Claire en l'occurrence notamment, a prélevé des chansons là-dedans, parce qu'on va pas faire 4 heures de pause musicale. Tu peux peut-être nous redire le nom de l'étudiante?
Oui, bien sûr. Il s'agit de Amandine Deloustal. Elle a été élue en tant que représentante de l'université et elle siège dans un, un collectif d'étudiants qui s'appelle le SAG, Student Advisory Group. Donc chaque université a des représentants, représentantes, et ils sont là pour nous aider à développer le projet Neolea. Et donc elle les a sollicités pour leur demander de fournir quelques musiques qui peuvent représenter leur ville ou leur pays. Et c'est ainsi que, qu'est née la playlist Neolea.
Et c'est très éclectique, il y a de la pop, il y a du rap, il y a du métal un peu, parce qu'on travaille avec des pays nordiques, que je crois que... en Scandinavie, il y a à peu près un groupe de métal pour 500 habitants. Moi, je crois, c'est à peine une blague, je crois. J'avais vu passer une statistique, c'était délirant. Donc c'est une playlist qui est très chouette. Et on va écouter le premier extrait, relativement court, hein, je le dis, allemand. C'est de l'allemand. Et ça s'appelle Barbara Srabar Barbar, si j'y arrive à le dire.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbarpapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop. Er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei. Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
Et on s'enjaille fortement dans le studio de Radio Campus, Tour 99.5 FM. I love mes cheveux. Deuxième partie de notre émission autour de Neolaya. Et nous écoutions le Barbaras Rhabar Barbar de Bodo Wartke. J'ai beau essayer de faire le malin à rappeler que je suis allemand LV1. C'est quand même super dur à dire. Et on a évidemment entendu qu'il y avait une prouesse langagière et vocale dans cette chanson, y compris d'écriture d'ailleurs, puisque ça repose entièrement sur des allitérations en B et en R. Et ça parle d'un bar, d'une certaine Barbara qui fait une excellente tarte à la rhubarbe dans son bar. Voilà. Donc il y a une version française, mais que je trouve un peu pénible personnellement. Mais bon, voilà. Donc je le signale juste pour les fans. Vous pouvez chercher la version traduite qui est un petit peu moins une prouesse, on va dire ça comme ça, du point de vue de la langue. Bon. Donc Bodo Wartke, ça fait partie de la playlist Néo. Et donc justement, on en vient au vif du sujet. J'allais dire la première vraie question, mais les autres étaient super intéressantes et surtout vos réponses étaient super intéressantes. Neolaya, c'est quoi ? Qui veut répondre ?
Ah, je sens que
tout le monde va regarder Claire. Donc Claire Durand.
Bon, déjà, j'essaye de me lancer un petit challenge, c'est de le prononcer tel qu'il faudrait entre guillemets le prononcer dans la langue de ce mot. C'est-à-dire que Neolea, c'est un mot qui est en fait en grec, puisque on a une université chypriote dans notre alliance. Mmh. Et Neolea, ça se prononce comme le prénom Léa, ça veut dire jeunesse, en fait. Puisqu'en fait, on est des universités qui sommes relativement récentes. C'est ça qui nous réunit. On est des universités qui sont récentes et pluridisciplinaires. Et donc, on s'est réunis dans une alliance, puisque c'était une initiative européenne d'inciter les universités à se réunir en alliance. Donc cette alliance, elle a été créée en 2019 et nous, l'Université de Tours, nous avons rejoint cette alliance en 2021. Et c'est depuis 2024, donc l'année dernière, que nous sommes financés par un projet européen et des financements aussi de l'État français. Voilà, donc on a ce projet maintenant avec des tâches à réaliser dans différents domaines, l'enseignement, la recherche, le plurilinguisme, la mobilité, la transformation numérique, l'entrepreneuriat et j'en passe. Voilà, donc on a une panoplie de tâches à réaliser dans cette alliance.
Très bien, donc on est à 20 minutes d'émission et j'ai dû dire 41 fois Néolaya. Donc à partir de maintenant, je vais dire Néoléa.
On essaye.
Je vais dire Néoléa. Léa.
Léa. Léa. Comme le prénom.
Sans le I.
Exactement.
Alors il y a éventuellement un petit moyen mnémotechnique qui est que le I est la seule lettre qui est en minuscule dans ce qui n'est pas un sigle, du coup, dans le nom de ce partenariat. Néoléa. Ok, super. Et donc, comme je m'en doutais, tu es super, super doué pour résumer en une minute ce dont il retourne.
Fin de l'émission, voilà.
Donc c'est super, merci beaucoup. Sur la question de Néoléa, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que ça peut apporter à l'Université de Tours ? Parce que là, nous, on est tous Université de Tours, on va être un peu corporate quand même. Comme il ne faudrait pas dire si on était à l'Académie française, mais ici on s'en fout, on parle le franglais. Qu'est-ce que l'Université de Tours peut apporter à cette alliance ? Et qu'est-ce que l'alliance peut nous apporter ? Est-ce que tu veux poursuivre ?
Oui, bien sûr. En fait, au-delà de ces financements européens que nous avons reçus pour accomplir des tâches en particulier, comme par exemple développer une offre de formation, un master, etc., au-delà de ça, en fait, de financement pécunier, je dirais, c'est vraiment cette opportunité de collaborer et de nous apporter des expériences et des compétences. Par exemple, nous, à Tours, on a quelque chose qui s'appelle les FacLab. Donc New Teach, ça s'appelait précédemment. Donc en fait, les FacLab, ça permet à des enseignants de pouvoir être accompagnés par des ingénieurs multimédia pour développer des projets étudiants, pour que les étudiants puissent faire des podcasts, des vidéos sur des disciplines scientifiques. Et donc ça, c'est vraiment une particularité de l'Université de Tours. Nos partenaires n'ont pas ça. Et donc nous, dans le projet Néoléa, en fait, on vient apporter ça aussi à nos partenaires. Et vice-versa, eux aussi ont des spécificités dans leurs universités. Et ils viennent nous apporter leur expérience et nous enrichir également. Donc en fait, on vient s'entraider, se tirer vers le haut si possible.
Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que contrairement... J'ai fait exprès de partir d'un cliché sur les Napolitains à partir du mot du jour, mais tu vois que contrairement à des clichés relativement répandus, au sein de cette alliance, c'est l'université française qui est la plus avancée en termes de lien entre la technologie et l'innovation pédagogique, en fait.
Alors, j'irai pas jusque-là, parce que, par exemple, l'université chypriote, elle est très avancée au D'accord. niveau technologique, mais sur l'aspect... accompagner les étudiants dans la production numérique et le développement de ces compétences numériques. Oui, là, on a tout un soutien. On a des salles de captation de podcasts, etc., que n'ont pas forcément nos partenaires dans notre alliance. Donc, en fait, par exemple, Chypre, eux, ils vont être plus portés sur le métavers, la réalité virtuelle, etc. Nous, beaucoup moins. Donc, en fait, on se complète
D'accord.
un peu.
Alors, puisque tu mentionnais l'université chypriote, qui est l'université partenaire, Chypre n'est pas un très grand pays, mais il y a plusieurs universités. C'est l'université de Nicosie, me semble-t-il. Et tes deux voisines et acolytes du jour ont opiné fortement quand tu as dit qu'ils étaient très avancés technologiquement, parce que on va prendre un peu d'avance, parce que c'est difficile de ne pas faire déborder une question sur l'autre, puisque Florence et Christine, vous êtes allées en mission ensemble à Chypre.
Et donc, au mois de mars.
Au mois de mars dernier. Et donc, vous avez pu notamment, effectivement, voir une partie de... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue technique qui vous a impressionné
ou que vous avez appris ? Effectivement, ils nous ont fait visiter tout leur campus. Hein. Et oui, on a découvert des salles magnifiques. Ça, je ne peux pas le dire autrement. Une salle spécifique sur l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, hein, où tous les étudiants sont équipés, ordinateurs, masques de réalité virtuelle, etc. Ils ont des salles de captation vidéo aussi assez impressionnantes, possibilité d'emprunter du matériel, on a vu ça, ils nous ont même proposé de prendre du matériel. Avec l'écran fond vert traditionnel dans les salles de vidéo, ils avaient des locaux vraiment bien équipés.
Oui. Alors, il faut savoir que c'est une université privée.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
La seule de l'Alliance, d'ailleurs.
C'est la seule université privée de l'Alliance.
Et effectivement, quand nous sommes arrivés dans cet établissement, on est déjà assez... cet établissement qui est un campus qui ressemble à une ville, en fait, hein, vu qu'il y a un bâtiment qui est exclusivement dédié au sport, un bâtiment exclusivement dédié à même des activités extra-universitaires. Donc, c'est quand même très impressionnant que d'arriver dans ce campus. Mais justement, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. On ne porte pas un regard envieux ou quoi que ce soit, sachant qu'on sait pertinemment que cet établissement vit sur des fonds privés, donc un mode de fonctionnement radicalement différent du nôtre. Mais effectivement, alors, ce qui est assez subjugant quand on arrive, c'est d'avoir déjà les locaux qui sont extrêmement récents. Et lorsqu'on visite les salles de cours, hein, c'est de la très haute technologie, même pour un laboratoire de langue, etc. Pas uniquement en faveur des formations tech. C'est pour n'importe quelle salle, n'importe quelle amphi. C'est vraiment ultra...
Ils ont
ultra avancé
avec du personnel technique aussi pour aider, ouais, assister, ouais, etc. Parce, ouais, que parfois il y a des, c'est arrivé, hein, aussi parfois qu'il y a des universités, y compris publiques, qui s'équipent d'une très grande quantité de matériel que soit les enseignants n'avaient pas été formés à utiliser, soit ils savaient s'en servir mais ils savaient pas les dépanner, évidemment, et on manquait de personnel permanent pour être là de manière réactive. Ouais, là, je pense que vu les fonds qu'ils ont, ouais, ça,
et d'ailleurs,
pas être problème.
Au-delà de la tech. Ces moyens sont mis à disposition même pour toutes les autres formations. C'est une université qui dispense aussi des formations professionnalisantes et notamment qui forment des chefs. Pour des étudiants qui veulent travailler dans l'événementiel, ce genre de choses, ils ont des formations même de cuisine dispensées par des très grands chefs, etc. Et ils ont un dispositif mis à la disposition des étudiants qui est mais extraordinaire.
Il y avait un amphi cuisine. Il y avait tout, voilà. Le piano, le four.
Tout est...
C'était impressionnant.
Mmh. Voilà, tout est XXL.
Je suis sensible au fait, et j'apprécie le fait que tu dises que comme c'est une université avec des fonds privés, oui, on ne peut pas comparer. Et effectivement, c'est pas forcément l'idée d'être envieux ou d'être jaloux, non, et de se dire que c'est mieux ailleurs. En revanche, si vous avez ça en tête, vous savez combien s'élèvent les frais d'inscription pour une année, pour un étudiant.
Alors,
parce que c'est aussi pour dire les choses aussi, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on a nous, oui, qu'est-ce
alors,
qu'ils ont
les
eux.
Les frais d'inscription, c'était, si ma mémoire est bonne, on était à du 15 000 à peu près,
15 000 euros par an. Voilà.
Alors, la grande majorité des étudiants sont aussi des étudiants étrangers. Il y a plusieurs universités dans la ville de Nicosie. Et cette université-là est privée et en fait a un public qui est quasi majoritairement étranger, en fait, hein, voilà, des Américains, enfin, qui arrivent des cinq continents.
Si je veux juste te dire, parce que tous nos auditeurs, auditrices ne connaissent pas nécessairement les frais, le coût des frais d'inscription dans, ouais, les universités publiques françaises, mais alors vous, et notamment toi, Christine, qui est gestionnaire pédagogique, tu le sais par cœur, c'est 250, c'est l'année.
Oui,
c'est à peu près
200 euros en licence et presque 300.
Donc on est dans un rapport de 1 pour 80, c'est-à-dire que un étudiant qui est à l'université de Nicosie, partenaire Néoléa, Léa, je vais y arriver. À la fin de l'émission, je pense que j'y arriverai. C'est pas très compliqué. Donc un étudiant de cette université paye 80 fois plus par an qu'un étudiant tourangeau.
Hors hébergement,
bien
frais,
sûr.
Quotidien, voilà. Etc. Voilà.
Et peut-être, ouais, qu'effectivement, l'équipement est absolument fantastique, mais, ouais, est-ce qu'il est 80 fois supérieur à celui de l'université de Tours? Moi, j'y suis pas allé, donc je le laisserai à titre de question, en grande partie rhétorique quand même. Mais
après, ce qui est quand même plutôt agréable dans cet établissement, et lorsqu'on discute avec les enseignants ou le personnel, c'est qu'ils ont bien évidemment parfaitement conscience de cette situation et ne mettent certainement pas en avant ces avantages-là au détriment de d'autres établissements. Ils savent pertinemment que oui, nous avons la chance de travailler dans cet établissement-là puisque c'est une université privée, mais sont extrêmement aussi, comment dirais-je, connaissent parfaitement la situation des universités françaises ou des universités européennes publiques d'une manière générale. Voilà, ils ne sont absolument pas ni dans le comparatif ni quoi que ce soit. Non, non.
Sachant que c'est sans doute extrêmement variable aussi en fonction des pays. On ne va pas commencer à faire un classement, mais peut-être que vous avez commencé à vous rendre compte que certaines, ouais, universités publiques de l'Alliance Néoléa, ça y est, j'y suis arrivé, à 9h59, tout va bien, sont peut-être quand même malgré tout mieux dotées que une université publique française.
Oui, avec Florence, on a eu effectivement il y a 3 ans une expérience dans le nord de l'Europe. On était à l'université de Trondheim en Norvège.
Qui ne fait pas partie de Néoléa.
Qui ne fait pas partie de l'Alliance. Et là, nous avons pu voir qu'à frais d'inscription quasi équivalent à l'université française, c'est l'État qui finance l'enseignement supérieur. Et l'université de Trondheim, je dirais, a pas grand chose à envier finalement à l'université de Nîmes.
Venira sur nos radosti. Studánko rozmila, kéž by si nám ten strom zalila. a pak se z tebe naše duše napila. Vdechla by dva loky lásky a tu boží víru, že všichni lidé na světě mohou žít i v míru. Vdechla by dva loky lásky a tu boží víru, že všichni lidé na světě mohou žít i v míru.
Avec le bruit du vent dans les studios de Radio Campus. I love mes cheveux et on écoutait un chanteur tchèque, Vojtěch Duk. C'est toujours la playlist Neolaya. Et on a eu un petit problème technique que j'ai réussi à régler plus ou moins. Je ne sais pas, en tout cas, le podcast s'est relancé. Je ne sais pas très bien comment. Bon. Et je pense que la partie en direct qui a été mangée par cet incident, c'est la partie dans laquelle on a énuméré le nom des universités. On va peut-être le refaire, je suis désolé, mais on va y arriver même sans l'aide mémoire, je crois. Si on va du sud au nord et de l'ouest à l'est, ça va commencer par l'université de Rennes en Espagne, ça va continuer par l'université de Tours en France. On va aller à Salerne en Italie ensuite, on va aller à Ostrava, non Bielefeld peut-être, allez Bielefeld en Allemagne, Ostrava en Tchéquie. Örebro, que je prononce beaucoup moins bien que Claire Durand, en Suède, et ensuite il me manque le nom de l'université roumaine, j'avoue, et de l'université
de Suceava et l'université lituanienne de Cholet,
et enfin Nicosie dont on a parlé.
Exactement.
Et qui est probablement la plus à l'est, encore que je ne sois pas très doué en géographie. Est-ce que la Lituanie est plus
c'est
à l'est?
C'est probablement la plus éloignée, en effet, ouais. La plus à l'est.
Ok, voilà, donc on a un petit peu rattrapé le coup. On n'a pas dit tout ce que, on n'a pas répété tout ce que tu avais dit, mais on a un petit peu rattrapé le coup. Voilà, donc bien après la question Neolaya, c'est quoi? Bien, une des raisons pour lesquelles je vous invitais aussi toutes les trois, c'est pour parler de Neolaya. Le stress m'a refait plonger dans la vieille prononciation, mais ça va être un gag récurrent au cours de cette émission, je crois. Je ne sais plus ce que je disais, du coup, à force de dire des bêtises et de m'interrompre. Donc oui, on a essayé de répondre à la question « C'est quoi Neolaya et comment on le prononce ?» Il y a des gens qui apprennent plus ou moins vite. Mais vous êtes là pour parler des missions Neolaya et notamment bien, de l'accueil d'un certain nombre de collègues de ces différentes universités dans le cadre de projets, mais aussi les missions à l'étranger. Et donc, à toutes les trois, à différents titres, vous avez pu faire des missions à l'étranger. Et je pense que Florence et Christine, notamment, vous aviez commencé avec des missions Erasmus et hors Europe. Et ensuite, évidemment, là, vous êtes investis à fond dans le partenariat. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots des missions que vous avez accomplies et comment est-ce qu'on fait pour partir en mission quand on est un personnel BIATS, un personnel non enseignant, si j'essaie d'éviter trop les sigles.
Mais déjà, effectivement, avec Christine, nous sommes partis ensemble. L'année du confinement, là, 2020, nous avions toutes les deux postulé pour des missions hors Europe. Et puis, c'est tombé à l'eau. Du fait du confinement, c'est tombé à l'eau. Et l'année où ils ont rouvert, 2021, les réseaux Erasmus, les collègues, Claire, entre autres, nous a proposé, puisque là, le hors Europe, ça ne fonctionne pas, tout est encore fermé, n'hésitez pas à demander une mission en Europe. Et avec Christine, on s'est regardé toutes les deux, on dit, mais pourquoi on ne le ferait pas ensemble, puisqu'on avait décidé de partir, pourquoi on ne le ferait pas à deux? Et là, tout par hasard, on a pointé la Norvège et nous sommes partis une semaine, au mois de mars 2021, je crois, à Trondheim, en Norvège, où nous avons été extrêmement bien accueillis. Comment on fait cette démarche? Il y a des appels à candidature, en fait, tout au long de l'année, au sein de l'université, que ce soit pour les enseignants, tout comme les personnels administratifs. On s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas? Donc, il suffit d'en faire la demande, de présenter un projet. Le projet, c'est de notre côté commencer à prendre contact avec l'université pour voir s'ils peuvent nous accueillir. Et puis, commencer à établir un planning. Comment on a fait ça? En fait, on a posé des questions. On leur a dit, nous, on aimerait bien venir chez vous, à Trondheim. On aimerait bien vous rencontrer, voir vos structures, vos enseignements, participer à une réunion. Voilà, on a commencé un dialogue ouvert avec cette université et puis de fil en aiguille, on en a créé un planning et puis dès que les frontières se sont rouvertes suite au confinement, on a pu prendre nos billets d'avion, notre hôtel et partir.
Et pour bien préciser, ce n'est pas du tourisme, donc il y a des missions, c'est-à-dire qu'on apprend des choses là-bas. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apporte?
Ce qu'il faut savoir, c'est pour le personnel, alors déjà nous avons cette chance immense que de pouvoir partir à l'étranger faire des missions professionnelles. Non, j'insiste, voilà, c'est des missions vraiment qui s'inscrivent dans un cadre professionnel. Tout comme les étudiants font des échanges Erasmus ou des enseignants font des missions d'enseignement ou de recherche, donc le personnel part faire une mission professionnelle d'une durée plus ou moins longue à l'étranger. Il existe deux types de missions à l'étranger. On peut partir donc soit seul, ce que Florence et moi-même avons l'habitude de faire, c'est donc des missions dites STT, donc une université nous accueille et nous travaillons généralement pendant une semaine aux côtés, nous faisons de l'observation, nous assistons à des réunions, etc. Auprès de nos homologues des universités partenaires qui ont la gentillesse de nous accueillir. Mais si on est un petit peu réfractaire à l'idée de partir seul, impressionné de partir dans un pays, on parlera tout à l'heure des freins qui peuvent bloquer un départ et comment on lève ces freins, puisque j'ai récemment incité une collègue à partir et qui a monté un dossier récemment. Il existe ce que l'on appelle donc des staff week, et dans la troisième partie de l'émission, on parlera de la fameuse staff week de Tours, c'est-à-dire ce sont des stages d'une semaine où on se retrouve en groupe dans une université partenaire autour d'une thématique qui est développée pendant la semaine. À titre d'exemple, on peut parler peut-être de l'introduction de l'IA dans la pédagogie, et ça se tient à l'université de Rennes en Espagne sur la semaine du mois de juin. Donc on s'inscrit et on se retrouve, et là on rentre vraiment dans un programme identique pour tout ce groupe. Donc il y a aussi une émulation, on fait la connaissance de plusieurs personnes, etc. On ne se sent pas seul, en fait. Alors que les missions STT, comme Florence et moi-même avons l'habitude de faire, alors nous, on aime beaucoup faire ça, on travaille beaucoup plus en autonomie.
Oui, il y a beaucoup plus d'autonomie.
Déjà dans la recherche du partenaire, mais après dans toutes les procédures inhérentes au montage du dossier, qui peut être plus ou moins compliqué selon le type de mission que l'on fait. Si on fait une mission Neolaya, alors là, on est merveilleusement accompagné par Claire qui facilite grandement les choses, mission Erasmus également. Par contre, mission hors Erasmus, je dirais qu'il faut quand même argumenter la raison pour laquelle on souhaite partir, pourquoi ce pays-là, je pense particulièrement à la Chine où Florence et moi nous sommes rendus il y a 2 ans. Nous avons été accueillis pendant 2 semaines à l'université de Canton, de Guangzhou, donc dans le sud-est de la Chine. Donc il faut quand même, ce sont des missions qui sont financées. Donc il faut quand même argumenter la raison pour laquelle on veut partir. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre d'un co-diplôme, etc. On reçoit des étudiants, on envoie des étudiants là-bas.
Il faut préciser juste que l'université de Guangzhou, comme l'université de Trondheim, ne font pas partie de Neolaya, mais ce sont des universités partenaires de l'université de Tours. Il y a tout un partenariat, un accord cadre qui est signé, qui est renouvelé régulièrement, etc.
Précédemment, dans une autre expérience professionnelle que j'ai eue à l'université avant de travailler en lettres, dans le cadre d'un laboratoire, je travaillais justement avec l'université de Canton, ce qui m'a permis presque 10 ans après de retrouver des personnes, des personnes avec qui j'avais travaillé au début des années 2010.
D'accord, très bien. Et donc, tu parlais des freins, en fait, parce que, par exemple, sur vos mobilités, on va dire en Chine comme en Norvège, bon, un des freins évidents qui peut paraître évident, c'est différence culturelle, différence de langue. Est-ce que je vais rencontrer à chaque fois des gens qui parlent anglais? Et si je ne rencontre pas les gens qui parlent anglais, est-ce qu'ils vont parler espagnol ou catalan? C'est peu probable.
La barrière linguistique, je dirais, est l'une des premières barrières. Alors, il y a tout d'abord l'envie de partir. Souvent, des collègues qui me disent, mais pourquoi tu pars? Alors, déjà, il faut aimer, il faut avoir cette curiosité de... comment dirais-je, culturel, linguistique, social, gastronomique. Voilà, il faut vraiment... C'est une expérience, je dirais, où on a nos cinq sens en éveil, hein, finalement, quand on fait une expérience de ce type-là. La barrière, effectivement, linguistique, et principalement, souvent, des collègues nous disent « mais je ne parle pas suffisamment bien l'anglais », mais il faut savoir que, alors, bien évidemment, l'anglais nous sert à nous débrouiller au quotidien, mais les partenaires sont toujours extrêmement bienveillants, et c'est vrai que les partenaires... souvent en Europe du Nord, donc, enfin, sont bilingues, anglais, le parlent depuis qu'ils sont extrêmement jeunes. En France, on n'est pas formé, je dirais, aux langues étrangères de la même façon. Donc, on a toujours cette espèce de petit complexe à l'oral. On comprend très bien les langues étrangères, mais on a ce petit complexe à l'oral qui disparaît au bout de 24 heures, mais l'arrivée est toujours un petit peu impressionnante. Mais il y a cette immersion linguistique. Et après, il peut y avoir d'autres freins, mais des freins de type familiaux. Les personnes, si on a des
organisationnels
enfants...
Organisationnels,
puisque le montage d'un dossier nécessite quand même beaucoup de patience, être à l'aise aussi avec la paperasse.
La réservation des hôtels, des avions,
c'est-à-dire que c'est en ça que je disais, on travaille vraiment en toute autonomie. C'est dès l'instant où l'on sait que notre mission a été acceptée, puisque les dossiers passent devant des commissions, etc., et que l'on va avoir donc une certaine somme allouée à notre départ, et bien à partir de ce moment-là, donc il faut effectuer des réservations d'hôtels, des réservations d'hébergement.
Il faut faire du Tetris avec des
et commencer aussi à regarder sur place comment on va s'organiser, quels sont les moyens de transport, les transports en commun, comment on rejoint l'aéroport, etc. Voilà, donc pour l'anecdote, Florence et moi-même n'avons pas atterri dans le bon aéroport à Chypre, puisque nous avons atterri en zone turque, alors qu'on nous avait surtout.
Un déroutage, ou c'est juste qu'il y a eu c'était une erreur, vous aviez
non, c'est qu'on a été quand même un petit peu en mode freestyle, Florence et moi, qui sommes quand même de grandes aventurières désormais.
Et plus vous êtes à l'aise, moins vous faites attention, en fait, c'est ça que vous avez...
En fait, je crois que c'est ça, c'est qu'on a plutôt d'abord regardé l'aspect économique et nous avons donc atterri dans un aéroport donc desservi par des compagnies low cost, donc nous étions côté turc. Et après, il a fallu passer la frontière.
Ah, c'est intéressant.
Ce qui était...
Je ne suis jamais allé, mais je connais
la frontière à pied.
Je connais un peu l'histoire turco-chypriote.
On passe la frontière à pied. Donc, on prend une navette qui nous amène de l'aéroport jusqu'au checkpoint. Et devant le checkpoint, nous descendons de la navette et nous passons... tels deux espionnes avec nos valises à la main, nous passons le checkpoint en fin de soirée et en fait, tout ceci se fait avec une facilité déconcertante puisqu'on peut passer ce checkpoint comme on veut. Ça en est d'ailleurs de jour presque une activité touristique en fait, que de venir voir le checkpoint et photographier le checkpoint. C'est un peu le checkpoint Charlie de Berlin, mais qui là, pour le coup, fonctionne.
Donc il n'y aura pas un épisode de Baron Noir avec vous en star, vous n'avez pas été menotté, tant mieux. Je suis rassuré rétrospectivement pour vous.
Mais donc, pour partir en Chine, en revanche, le dossier était quand même assez long à préparer. Et là, on part après dans les procédures de demande de visa qui sont quand même aussi complexes à obtenir lorsqu'on part dans un cadre professionnel où ce ne sont pas les mêmes documents qu'il faut remplir. Et l'arrivée en Chine reste assez mémorable puisque c'est quand même assez particulier que d'atterrir dans un aéroport chinois. Mais donc si on fait abstraction de tout ça...
Comment est-ce qu'on lève les... Parce que tu disais, récemment, j'ai réussi à convaincre une collègue. Et donc, concrètement... Parce que c'était même pas parce que tu avais un intérêt personnel, c'est pour qu'elle parte.
En fait, cette collègue nous a souvent entendu parler, Florence, moi-même et d'autres collègues, puisqu'il n'y a pas que Florence et moi qui partons en lettres et langues.
Le studio de Radio
Campus, et on parlera d'ailleurs de ces collègues-là tout à l'heure, puisqu'elles sont
associées
à la Staff Week. Elle nous entend souvent parler de ces expériences-là et surtout des retours sur expérience. Et un jour, elle m'a dit, mais moi j'aimerais aussi beaucoup coup faire ce genre de choses, mais je ne sais pas par où commencer. Comment commence-t-on ? Eh bien, le premier pas à faire, donc, c'est de prendre contact avec le service des relations internationales de l'université ou avec l'AIR pour la partie Nolaya, si on veut partir dans un établissement de l'Alliance Néolaya. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, elle a fait ce que j'ai fait, la première expérience, qui est une expérience professionnelle extrêmement enrichissante. Et d'ailleurs, je placerai ma petite phrase habituelle à la fin de mon discours. C'est elle a démarré par une université qui est extrêmement proche. Elle va partir à Bruxelles, en fait, dans un pays francophone, mais où elle va rencontrer ses homologues. Comme je dis toujours, la réussite d'une mission Erasmus n'a rien à voir avec ni le glamour de la destination, ni le nombre de kilomètres. En fait,
Bruxelles est très glamour, en plus, moi, je trouve.
On peut avoir une expérience qui coche vraiment toutes les cases, qu'elles soient linguistiques, mais surtout humaines, culturelles, etc., dans un pays qui est pas si loin que ça. C'est une expérience que j'ai vécue au Monténégro, vraiment, qui restera peut-être pour moi l'expérience la plus marquante.
C'est pas la première fois que je t'entends dire ça.
D'un point de vue accueil. C'était vraiment une super expérience. J'ai gardé d'excellents contacts avec les personnes qui sont là-bas. On peut vivre vraiment des choses extrêmement touchantes aussi, sans pour autant aller à l'autre bout du monde.
Donc on commence par la Belgique et le Monténégro.
Voilà, et après on s'éloigne, et après on se retrouve en Chine.
On finit par se tromper de frontière après, si j'ai bien suivi le narratif. Claire.
Je pense qu'un conseil que je pourrais donner aux personnes qui ont cette barrière linguistique, en tout cas ce frein, c'est d'y aller progressivement, en fait. C'est ce que tu as proposé justement à la collègue, ce que vous aviez proposé aussi avec Maria Lavis, pour la citer. Et je pense qu'une première mobilité pour être confronté à l'autre, à une autre façon de fonctionner, un autre genre d'université, voir qu'en fait on peut voir autre chose que ce qui se passe ici à l'université de Tours ou en France. Ensuite, suivre des cours d'anglais. Donc l'université de Tours propose des cours d'anglais pour les personnels gratuitement. Il y a aussi des stages qui peuvent être faits en mobilité Erasmus, des stages dans des universités ou des écoles qui proposent des cours de langue. Donc il y a aussi cette possibilité. Et puis d'y aller petit à petit, peut-être commencer aussi par une staff week, comme tu le suggérais tout à l'heure, d'être dans un groupe et de ne pas avoir cette pression d'être en face à face avec un partenaire, ce qui peut être un peu intimidant au début, et bien d'être un peu noyé dans un groupe, de pouvoir prendre ce qu'on arrive à prendre et donner ce qu'on arrive à donner, et s'en contenter en fait, et puis après finir par le boss final. Ce job shadowing, comme on l'appelle dans le jargon, ce stage d'observation Erasmus, en face à face avec d'autres collègues, quand on se sent vraiment plus à l'aise. Je pense qu'on peut y aller progressivement.
Justement, dans ce cadre-là, Florence et moi-même avons eu l'occasion d'être reçus par des instances des universités. Alors, je pense particulièrement en Chine, nous arrivions quand même avec des documents officiels à faire signer par
le
directeur de relations internationales.
On avait le renouvellement de la convention de double diplôme.
D'accord, ok.
Et ces personnes-là nous accordent quand même de leur temps. Et finalement, le fait de recevoir du personnel administratif, et Florence pourra confirmer, on n'arrive pas avec une mission particulière, une mission d'enseignement, une mission de recherche. Non, on arrive, nous, vraiment aussi pour représenter notre établissement, pour découvrir leur façon de travailler, en revenir aussi avec peut-être la mise en application de certaines façons de travailler, etc. Mais, et de fait, je dirais que nos missions interpellent aussi un petit peu nos hôtes, qui n'hésitent pas justement à nous accorder parfois et souvent même plus de temps. Je pense particulièrement à l'université à Nicosie, où le président de l'université était censé nous recevoir pour une petite réunion presque informelle d'une heure, et finalement il a annulé tous ses rendez-vous de la matinée. Il est resté toute la matinée avec nous parce que justement il trouvait extrêmement riche et aussi un petit peu, je dirais, original.
Je confirme que dans les missions d'enseignement ou de recherche, on ne rencontre jamais le président de l'université. Mais je le dis comme toi tout à l'heure, sans aucune jalousie. Je veux dire, c'est aussi pour dire que vous avez des compétences et des pratiques et des apports et des intérêts pour les universités partenaires qui ne sont pas du tout, qui sont finalement beaucoup plus ciblés et beaucoup plus intéressants. Je trouve que l'enseignement et la recherche, qui sont les missions de l'université depuis des siècles, en fait.
En fait, souvent, ils sont curieux de savoir pourquoi on vient, dans quelle démarche.
Parce qu'il y a peu de mobilité des personnels non
enseignants. Il y a peu de mobilité personnelle administrative.
Venant des universités, en l'espèce, là, que ce soit la Chine, Nicosie, etc. Vous avez eu vent. Alors, pour Nicosie, c'est un peu tôt, mais vous avez eu l'impression que ça allait créer quelque chose, qu'il y allait avoir, ça allait créer une demande.
Nicosie, on a un sacré retour.
Ah, Nicosie. Oui, alors, notamment un retour ultra positif sur la Staffoui, puisque nous avons profité justement de ce déplacement-là, Nicosie étant dans l'Alliance. Oui. Donc étant directement visé par l'organisation de notre Staff Week dont on parlera tout à l'heure. Donc on est parti justement avec aussi cet objectif de promouvoir cet événement et il y a eu vraiment un effet boule de neige et à la fin de notre séjour, il y avait 11, 12, 13 personnes qui se sont manifestées, qui nous ont dit mais où est-ce qu'on s'inscrit ? On a dit, ok, très bien. Donc, pas encore, mais ça va arriver. Bon, nous étions quand même contents de voir qu'après, les personnels en parlaient entre eux. On a pu donc présenter cet événement et on était contentes.
Très bien. On va pouvoir faire une autre pause musicale. Florence, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, une petite anecdote avec l'histoire de la barrière de la langue. Quand nous sommes allés en Chine, à Canton, tout le département parlait français. On n'a quasiment jamais parlé anglais au sein de l'université. Ils parlaient tous français.
Nous étions au département de français de l'Université de Canton.
Ouais. Mmh. Ok, c'est effectivement important d'apporter cette précision.
Oui, parce qu'alors après, pour le coup, on se sent bien seul, que ce soit dans Canton, et puis nous avons eu la chance, le temps du week-end, de partir à Hong Kong et à Macao. Là, pour le coup, on se sent quand même assez seul.
Parce que là, pour le coup, tout le monde ne parle pas anglais.
Non. Et même faut en vraiment Hong Kong, tout le monde ne parle pas
anglais. Moi, j'ai rencontré, lors d'une mobilité enseignante, une jeune femme de 20 ans au Danemark qui ne parlait pas anglais, avec qui je n'ai pas pu échanger en anglais. Donc, même par rapport à des pays, ce que tu disais tout à l'heure, où on se dit ils parlent tous anglais, etc., ponctuellement, il arrive qu'on soit obligé de faire de la communication par gestuelle.
Le soir, nous sommes arrivés à Hong Kong pour y passer donc un week-end de 3 jours. Il y avait une logistique autour de l'achat d'une carte SIM, puisque le Wi-Fi en Chine, c'est quelque chose de particulier aussi dont il faut s'approprier les codes. Eh bien, nous nous adressions pourtant à des jeunes gens dans la rue pour leur demander à quel endroit il nous était possible d'acheter une carte SIM, et aucun des jeunes que nous avions interpellés ne parlait l'anglais. Donc, ça démarre bien.
Donc voilà, donc c'est toujours aussi des expériences contrastées. Enfin voilà, vous vous en êtes sorti, vous avez acheté votre carte SIM et vous êtes revenu.
Oui, voilà. Et nous avons pu échanger.
Voilà, donc ça, on y arrive. Notre dernière pause musicale avant de parler de la Staff Week et qu'est-ce que c'est que la Staff Week pour le dernier quart d'heure de l'émission. Pause musicale, c'est toujours la playlist Neolaya et c'est, alors attention, j'espère que je ne vais pas mettre le son trop fort parce qu'il y a toujours un petit contraste entre la musique. C'est un groupe qui s'appelle Light Screamer, ce qui déjà, je crois, a dit à peu près tout. Et le titre, c'est Bezimensky Secret, j'ai évidemment très mal prononcé. Et c'est, je crois, un groupe suédois dans lequel même un ou une collègue de l'université. Voilà, c'est ce que tu m'as dit, Claire, c'est que c'est une collègue de l'université.
Ida Anderson Nori, une collègue de l'université de Rebro.
Qui chante, qui joue.
Qui est bassiste et
d'accord.
Choir aussi.
Voilà, donc là on est vraiment au cœur du partenariat Neolaya et on écoute ça tout de suite. Attention aux oreilles.
What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. Living hysteria. We'll be right back.
Music is a universal language, spoken and understood by all people of all races, creeds and ages. Music is our business.
Et donc avec un sample partie que je n'identifie pas, mais dont le message parle particulièrement à l'animateur de cette émission, I Love Mes Cheveux, Music is a Universal Language. Et donc nous venons d'écouter, j'ai déjà oublié le titre et j'ai fermé la fenêtre, donc c'est pas grave, Bezymensky's Secret de Light Screamer, c'est un morceau de 2013. Et donc la bassiste est une collègue de l'université de Örebro. On est donc de retour pour la dernière partie dans laquelle on va parler de la Staff Week, mais pas seulement. Claire Durand, j'ai encore oublié, chargée de projet, j'ai encore failli te faire calife à la place du calife. Chargée de projet Néoléa, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. En fait, je voudrais juste ajouter quelques informations concernant les opportunités spécifiques à Néoléa pour les personnels de l'université. D'ailleurs, vous pouvez toutes et tous vous rendre sur le site internet de l'université. Dans l'onglet Néoléa, vous avez une catégorie opportunités pour les personnels. Et donc, en fait, tout ce qui a été dit sur les types de...
Pardon ?
Existe également dans Néoléa, mais on essaye d'aller plus loin sur la qualité et aussi le nombre de mobilités qu'on organise. Donc, par exemple, pour les stages d'observation, on est en train de mettre en place une liste des services qui peuvent accueillir des collègues et à quelle période de l'année elles peuvent accueillir. Donc, par exemple, vous pouvez déjà aller voir dans les universités partenaires quels services accueillent et à quelle période. Comme ça, ça facilite. On a aussi la mise en place des groupes d'experts. Donc, on met en place des groupes d'experts métiers, par exemple, un groupe pour les RH, un pour les carrières, comme par exemple la MOIP ici chez nous, les bibliothécaires. Donc, en fait, pour plusieurs métiers de l'université, on met en place des groupes d'experts et d'expertes. Tout le monde peut y participer et donc se rencontrer une fois par an à l'occasion d'une Staff Week. On est aussi en train de développer un guide des opportunités de mobilité dans notre alliance à destination des étudiants et étudiantes, mais aussi des personnels, avec tout ce qui existe comme possibilité. Un guide du voyage pour vous aider, puisque comme Christine l'a dit tout à l'heure, c'est parfois chronophage d'organiser une mobilité. Donc là, en fait, on essaye d'identifier les types de moyens de transport pour aller dans chaque université, à quel aéroport on arrive, etc. Et puis, nos partenaires sont beaucoup plus enclins aussi à vous recevoir et à dire oui du fait de cette alliance. Donc, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un feu vert que pour une autre université qui est partenaire.
Ce n'est pas seulement des financements, c'est aussi un partenariat privilégié avec une identification vraiment des universités partenaires comme ayant une sorte de label supplémentaire qui facilite les
choses. Et puis,
des
bons contacts. On se rencontre régulièrement. Donc, en fait... Plus des personnes partent en mobilité et plus finalement ça facilite.
Justement, je me permets quand même de te poser la question à laquelle toi tu n'as pas répondu. C'est-à-dire que tu es parti aussi.
Vous avez une heure et demie du coup.
Non, parce qu'en fait il nous reste à peine 20 minutes et il faut qu'on parle un peu de la Staff Week. Mais si tu peux nous dire peut-être les dernières missions dans le cadre de Néoléa.
De Néoléa, je suis amenée souvent à partir en mobilité chez nos partenaires, mais c'est plutôt pour faire des réunions de travail. Donc là, par exemple, en octobre, nous allons accueillir à Tours, on appelle ça un bootcamp, mais en gros une session intensive de travail puisqu'on est en train de mettre en place un master qui va ouvrir en septembre 2026. Donc encore beaucoup de travail à terminer. Donc voilà, c'est généralement des réunions de travail. Je suis allée à Ostrava au mois de juin. En avril, j'étais à Jaén avant les grosses canicules de Jaén. Ouf. Et voilà, donc on se retrouve et en fait, on travaille entre chargés de projet ou représentants de chaque université sur une thématique spécifique. Voilà.
Alors si je peux juste ajouter aussi un petit mot en tant qu'enseignant-chercheur, parce que j'anime l'émission, mais je suis aussi un petit peu payé pour autre chose, parce que je ne suis pas payé pour faire de la radio quand même. Surtout vu comme je suis doué avec les manettes. Désolé pour le petit truc tout à l'heure. Moi, je vais aller à Jaén pour la première fois, en fait, aussi en octobre, dans le cadre d'un grand colloque qui s'organise là-bas, qui est un des premiers grands colloques Néoléa. Et donc, on va être une petite délégation tourangelle. Mmh. On était censé être une dizaine, finalement, on sera peut-être un petit peu moins, mais on sera quand même 8 ou 9, je crois, à participer à ce colloque. Donc, je crois qu'on risque d'être la plus grosse délégation des 9 universités.
Ne sous-estimez pas les Chypriotes et les Suédois.
Les Chypriotes et les Suédois. Bon, on verra, on fera pas de concurrence arithmétique. Mais c'est pour dire, voilà, ce partenariat a fait émerger aussi ce colloque-là, qui est sur des thématiques dans lesquelles moi je peux m'inscrire dans le cadre de ma recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Voilà, donc c'était juste aussi une parenthèse par rapport à ça. Donc voilà, finalement, le mot, c'est pour ça que j'espère quand même qu'on réussira à sauver un peu le podcast et à mettre tout ça en ligne, parce que vous avez très bien expliqué toutes les trois, tous les freins qu'on peut avoir, mais aussi toutes les solutions qu'il y a, et surtout tout le bénéfice qu'il y a à retirer de ces expériences pour sa propre pratique professionnelle. Et moi, je peux en témoigner en tant qu'enseignant-chercheur et vous en témoigner fort bien sur vos différentes missions. Alors, il nous reste donc une petite dizaine de minutes pour parler de cette fameuse Staff Week. Horrible franglais, non, je ne vais pas essayer de me prétendre de l'Académie française. Merveilleux mot franglais qu'on pourrait traduire par semaine des personnels, mais bon, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas Staff Week? Donc, on garde Staff Week et vous en avez parlé, et bah, en bref, ça aura lieu en octobre à l'Université de Tours, si j'ai bien suivi. Quand? Comment? Pourquoi? Qui sait? À quoi ça sert? Enfin, vous l'avez déjà dit un peu, mais on a le droit de répéter un peu. Alors, Christine.
Alors, en fait...
qui est Madame Staff Week, j'ai l'impression, un peu. Tout le monde te regarde.
Tout le monde me regarde. Florence me présente à chaque fois comme
no pressure.
The leader.
You are.
En mai 2024, j'ai répondu à un appel du service des relations internationales qui propose tous les ans, qui fait un appel à projet. Est-ce que vous pensez à un projet particulier, pas forcément de cette envergure-là, hein, mais un projet particulier qui pourrait mettre en valeur les relations internationales à l'université. Voilà, est-ce que vous pensez à quelque chose de particulier? Et j'ai spontanément pensé justement à l'organisation d'un événement qui réunirait donc les partenaires Neolaya. Donc j'en ai parlé à mon responsable administratif, Monsieur Martin, responsable administratif de l'UFR Lettres et Langues. Et nous avons profité d'une venue dans notre faculté de la vice-présidente aux relations internationales à l'époque pour lui faire part de ce projet. Nous étions également avec Monsieur Bideau, ancien doyen de l'UFR Lettres et Langues. J'ai bien argumenté, bien présenté les grandes lignes de ce à quoi je pensais. Et voilà, elle a émis un avis favorable pour que nous montions le projet. C'est-à-dire, monter le projet, ça ne voulait pas dire que celui-ci était accepté, mais que c'était un projet intéressant et qu'effectivement, on verrait si un jour il pourrait voir le jour. Donc à partir de là, il a fallu mettre donc en place la mise en œuvre d'un projet. Et donc tout d'abord, constituer une équipe de travail. Et donc, ce jour-là, j'ai donc contacté des collègues qui sont habitués aussi à des missions Erasmus, en l'occurrence donc Florence, Marie Secaldi du département d'espagnol et d'italien à l'UFR Lettres et Langues, Maria Lavis, qui est coordinatrice relations internationales également, Monsieur Martin, le responsable administratif de notre UFR, qui coordonne avec moi, on va dire, ce projet. Deux collègues également de la faculté Arts et Sciences Humaines étaient également prévus dans ce projet, puisque c'est un projet qui s'adresse à des personnels des 9 universités partenaires, des facultés de lettres et langues, mais également Arts et Sciences Humaines. Donc on les avait conviés. Malheureusement, pour des raisons personnelles, professionnelles, elles n'ont pas pu poursuivre ce projet, donc finalement elles sont parties. Et le tout, bien évidemment, est coordonné de façon magistrale par Claire, qui nous guide dans toutes les étapes, parce que c'est quand même c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc le but de cette Staff Week est donc de réunir les universités partenaires, les collègues administratifs, donc des services de pédagogie, scolarité des universités partenaires, autour d'une thématique qui est donc le parcours étudiant. C'est le parcours pédagogique.
C'est le rôle de l'administration dans l'expérience étudiante.
Je ne me rappelle même pas du titre. Donc voilà, le rôle de l'administration dans le parcours étudiant. Alors dans le parcours étudiant classique, et c'est là où on va voir dans nos différents ateliers, de quelle façon on va intervenir dans nos différents ateliers. Le parcours classique, on s'inscrit à l'université, on va parler d'étudiants Erasmus, entrants, sortants. Mais après, de tout ce qui est... tous les aléas aussi que l'on gère à côté. Donc, c'est-à-dire comment nous-mêmes et nos universités ont géré la période Covid, mais aussi comment on gère peut-être à l'Université de Tours, et ce qui peut-être aussi fait office comment dirais-je,
spécificité
à notre établissement.
Je sens que tu vas parler de grève et de
blocage. Voilà, on va parler
de notre compétence.
C'est unique. Notre compétence.
Tu vois, autant je ne peux pas t'aider avec les sites, autant fou, là j'avais deviné ce que tu
voilà. Et donc on va préciser enfin comment on gère une grève à l'Université de Tours, quel est aussi le rôle des étudiants élus à l'Université de Tours, quel est le rôle politique aussi de nos étudiants.
Et comment on règle aussi la communication avec les étudiants comment étrangers et d'échange, parce que c'est à chaque fois un sujet voilà. De se dire
on va également
on
parler de l'inclusion, donc des étudiants en situation de handicap. Et donc pour toutes ces thématiques-là, nous avons fait appel au vice-président notamment de l'université, donc vice-président des relations internationales, vice-président de la vie étudiante, de la vie universitaire, vraiment les vice-présidents qui peuvent s'exprimer de façon extrêmement professionnelle donc sur ces thèmes-là par le biais de conférences. Et chaque conférence sera ensuite suivie d'ateliers, donc de workshops, de débriefings où tout le monde pourra ensuite aussi faire un retour d'expérience sur des thématiques similaires.
Et ça a lieu du 20 au 24 octobre.
Alors, 20 au 24 octobre. Donc, voilà, on passe par différentes étapes de travail qui sont, comme je le disais tout à l'heure, bien coordonnées par Claire, puisque c'est quand même un très, très gros travail. J'ai l'honnêteté de dire que quand j'ai pensé à ce projet et lancé ce projet, je ne m'attendais pas à cette charge de travail. Et ce qui est aussi difficile à tenir, c'est la... Je dirais cette excitation, cet enthousiasme.
Il y a des moments où ça retombe.
Il y a des moments où il a fallu retrouver un petit peu de motivation. Mais là, ça y est, on arrive maintenant, je dirais presque en fin de parcours. On a le nom donc, des personnes. Donc, là, maintenant, ça a pris vraiment un aspect extrêmement concret. Nous avons le nom des personnes qui se sont...
Le programme des ateliers détaillés.
Le programme est fait, les ateliers sont faits. Nous avons obtenu un financement et nous avons d'ailleurs eu la chance d'être extrêmement bien classés dans le cadre d'une commission qui attribue des financements sur des projets similaires, puisque on a été classé premier. Donc,
tu n'as pas.
Nous avons obtenu le maximum d'inscrits. On était parti entre 15 et 20, et nous avons les 20 inscrits qui se sont inscrits finalement assez rapidement. Donc, je pense qu'en tout cas, en termes de communication, ça a été un vrai succès.
Un quart de chypriote.
Et j'espère en tout cas que.
QART ou c'est
un autocar.
Que ce succès se confirmera en tout cas au mois d'octobre. Et là, en fait, ce qui va venir aussi ponctuer et un petit peu alléger le programme qui reste néanmoins quand même assez dense, eh bien, c'est toute la partie culturelle, puisque ça fait aussi partie de la Staff Week. Donc, il va y avoir une visite de la ville en anglais. On va aller visiter un château d'Amboise. Une cave, faire de la dégustation. Il y aura un atelier en langue française. Donc pas mal de choses aussi qui viennent rendre encore plus agréable. Ce n'est pas qu'une semaine de pur travail, c'est aussi des échanges linguistiques, culturels, de la découverte gastronomique. Et donc pour ça, à Tours, je pense que ils seront toutes les cases.
Je le signale, et c'est à l'antenne, et donc il y a un très grand nombre de témoins. Si vous n'êtes pas complètement épuisé le vendredi soir ou le samedi, qu'il y a encore certains des personnes de vos collègues qui assistent à la Staff Week, qui veulent venir faire une petite émission autour du micro, il ne faut pas hésiter. Hein. Oh. Je peux aussi me balader avec un Zoom audio à un moment donné, ce qui est peut-être plus simple. Mais on peut enregistrer une émission qui sera diffusée ensuite, plus tard, le lundi suivant ou quelque chose comme ça. Donc c'est juste pour dire, si on veut suivre, vous pouvez l'intégrer au planning si votre planning n'est pas déjà supra bouclé et supra chargé, ce que je suppose aussi. Bon, à voir. Oui, sur la Staff Week, Florence. Tu voulais ajouter quelque chose, Florence, ou... Non,
elle est spéciale. On collabore.
Christine a très bien expliqué.
Elle a bien expliqué. Et puis, c'est vrai qu'on est une chouette équipe. Et tout le monde participe. On se répartit les tâches. Il y a des choses à créer avant de commencer.
Ce qui est très important
supports.
Ce qui est très important pour les creux, dans l'enthousiasme, quand il y a des moments de découragement. Quand on est plusieurs, on est rarement découragé tous en même temps. Donc, c'est tout en même temps, en l'occurrence.
On s'est réparti des tâches là maintenant, puisqu'on arrive vraiment en phase finale où on déclenche aussi des bons de commande, puisqu'il faut faire des réservations, etc. Donc là, la précédente réunion, c'était vraiment... maintenant, on se répartit les tâches. Qui fait quoi? On fait un débrief le 11 juillet. Avant de partir en vacances, là, vraiment, ça sera maintenant... tout sera posé et après...
Ah oui, parce que je le rappelle d'ailleurs, mais l'université a fait une pause estivale à partir du, je ne sais jamais, 23, 24, je ne sais plus quand le site ferme.
18, non.
Ah, 18,
non,
cette année.
Non, c'est 24.
C'est 24. Toi, tu pars en vacances au 18, peut-être. Non, mais c'est pour... Non, mais c'est... Voilà, donc justement, par rapport à ce que je disais, c'est que parfois, bah, notamment... On l'explique gentiment aux étudiants quand début mai, lors du dernier examen, ils nous disent « Bonnes vacances, monsieur ». Bah, toi peut-être, mais moi non. Donc voilà, c'est qu'à l'université, on travaille jusqu'à la mi-juillet et on reprend autour du 20 août. Claire, tu voulais ajouter quelque chose sur
concernant la Staff Week. Exactement. En fait, ce qu'on a aussi essayé de faire avec cette Staff Week, c'est d'apporter de l'internationalisation aussi aux collègues qui sont à Tours, à la Faculté de Lettres et Langues et Sciences Humaines, et qui ne bougent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'occasion, le temps ou même l'envie. Et donc, on va aussi mettre en place un système pour permettre aux collègues BIATS de l'université, et particulièrement des Tanneurs, de s'inscrire pour certaines conférences, pour pouvoir venir rencontrer les autres collègues, pouvoir aussi s'immerger dans cette dimension un peu internationale qu'aura cette semaine, et que ça puisse aussi profiter à un plus grand nombre que juste l'équipe qui a organisé, finalement.
Et cette Staff Week, en fait, est la première du genre, donc, qui est organisée par du personnel administratif pour du personnel administratif, puisqu'il y a des Staff Week pour le personnel administratif, mais on ne sait pas, enfin, à la base, elles ne sont pas forcément organisées par nos homologues des différentes universités. Et ce que l'on espère, c'est que c'est qu'on va initier un cycle et que peut-être tous les deux ans, tous les trois ans, enfin on ne sait pas, cet événement puisse se retrouver ailleurs, organisé par quelqu'un d'autre dans une autre université. Voilà.
On sème des graines, c'est le principe. C'est le principe. Eh bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin, je pense, sauf si vous avez des choses à ajouter, parce qu'on va être... Il faut qu'on rende l'antenne pour la Méridienne. Donc, merci à toutes les trois et à Émilie, qui est notre stagiaire de première, enfin, pas la mienne en l'occurrence, mais qui a pris beaucoup de notes, je crois. Donc, si on a des problèmes de podcast, je pense qu'on pourra appliquer ces notes pour faire un compte-rendu. Merci aussi beaucoup, Émilie. Et c'est parti pour le générique de fin qui est un peu original cette fois-ci.
Zwaaije, zwaaije, zwaaije.
Merci d'avoir écouté la 17e émission de I Love Mes Cheveux. La voix que vous écoutez, qui a interrompu brièvement ma collègue parce que j'ai pas arrêté de faire des erreurs de manette, c'est la voix de Nina Persson, la chanteuse des Cardigans, mais ici dans un autre projet, avec le groupe Medborgar Bandet, prononciation non garantie. Et donc Nina Persson, chanter en anglais avec les Cardigans, chante aussi en suédois. Nina Persson qui est originaire de Rebro, ce que m'a appris Claire Durand quand nous avons préparé l'émission. Donc merci à toutes les trois pour votre participation, à toutes les quatre même pour votre participation.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, il y a le compte Instagram ILMC2025 tout attaché. Et on se retrouve dans une semaine, le 7 juillet, car je ne m'arrête jamais, il faut croire, pour une émission spéciale consacrée au Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. C'était I Love Mes Cheveux. Bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. Förvandlingen blev fenomenal, men plötsligt då